Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mon grand garçon qui a aujourd'hui 17 ans, il est né à Jinzhou en Chine.
Ok.
Et dans cette ville-là, j'étais la première étrangère à accoucher à Jinzhou, donc je faisais la une des journaux, je me sentais comme une star. Média 1, elle fait beaucoup pour les artistes et c'est inestimable parce que les artistes, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'être écoutés. J'ai gagné un prix prestigieux comme avant l'âge de 7 ans. J'étais, mes parents à l'époque, ils vivaient à Rabat. Mm-hmm. J'ai dessiné quelque chose que j'ai intitulé « Ce que j'aime » et mm-hmm. ça a remporté un prix.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte.
Média 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Shams Sahbani, artiste peintre passionné par l'univers artistique et la littérature. Des débuts dans l'enseignement et puis beaucoup, beaucoup d'expositions à son actif et un amour sans pareil pour l'univers artistique. Elle nous raconte donc son histoire et on retrace son parcours ensemble. Aujourd'hui dans Job Story, Shams Sahbani, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à mon parcours professionnel et personnel. Je suis très contente et honorée de faire partie de votre émission qui va passer sur Média 1 Radio. Merci.
Bah, tout le plaisir est pour moi. Shams, alors on le sait, je le dis souvent dans Job Story, toute carrière a un début, le jour où tout a commencé, professionnellement parlant. Ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas dans l'univers professionnel. On va dire, une fois votre diplôme en poche, vous avez fait quoi sur le plan professionnel ?
D'accord. Alors, je vais commencer par le tout début. Mm-hmm. Alors, au lycée déjà, j'ai suivi une filière littéraire. Par passion, mm-hmm. beaucoup plus par passion que par vocation, parce que j'avais des notes catastrophiques en histoire géo, mais j'adorais surtout la littérature et je lisais beaucoup en anglais et en français. Mm-hmm. Donc j'ai choisi une filière littéraire avec une option anglaise. Par la suite, j'ai intégré l'université Hassan II pour préparer une licence en langue et littérature anglaise. Et par la suite, j'ai préparé un master en sciences humaines, j'ai étudié à l'université d'Ottawa. Donc, déjà à 13 ans, je parlais couramment l'anglais. Donc, j'étais un peu l'adolescente, vous voyez, avec le jean déchiré, les cheveux en l'air et en train de boire les boissons.
Très cool.
Je me sentais américaine dans l'âme. Donc, quand j'étais moi plus jeune, c'était un peu ça. Et donc, après le master, j'ai travaillé au début. C'était des petits jobs. Je donnais des cours. Déjà, en étant étudiante, je donnais des cours d'anglais. Je travaillais par-ci, par-là pour avoir de l'argent de poche. Mais mon premier travail professionnel, c'était dans un laboratoire pharmaceutique. J'étais assistante marketing. Mm-hmm. Mais je ne me sentais pas bien dans mon élément. Je n'étais pas médecin, je n'étais pas pharmacienne. Et ce n'était pas ça. Donc, je rêvais toujours de travailler dans le domaine de l'enseignement. En fait, c'était ça ma vocation, c'était ça ce que j'aimais faire. Mmh. J'ai donc travaillé à l'université Hassan II de 2001 à 2005, mais j'ai travaillé à la présidence, j'étais chargée de communication, et puis la dernière année, j'étais le chef de cabinet du président. Mmh. Donc je travaillais un peu sur les discours, je gérais ses projets personnels, et il y avait beaucoup de culture dans ce que je faisais aussi. Donc je travaillais avec les étudiants, il y avait le forum de la créativité, ça me plaisait énormément. En 2005, je suis partie en Chine.
D'accord.
Donc en Chine, j'avais un contrat pour enseigner pendant une année à l'université de technologie de Jinzhou, mm-hmm. c'est une ville dans la province de Liaoning, à 600 km nord-est de Pékin. Mm-hmm. Et sincèrement, nous sommes partis à l'aventure, mon mari et moi. Donc nous avons plié bagages et nous nous sommes dit, nous allons voyager un peu et puis par la suite, on verra comment ça va se présenter. Et je signale ici qu'on n'était pas riche, qu'on n'avait pas une sécurité financière ou autre. On a juste essayé et ça a marché.
Bah généralement, ça se passe comme ça. Quand on ne se pose pas trop de questions, ce n'est pas pour encourager les gens, bien sûr, à prendre des décisions sur un coup de tête, parce que non, c'est du cas par cas, chacun son histoire, bien sûr. Mais généralement, quand on n'y pense pas trop, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, j'ai l'impression, quand on n'y pense pas trop, on ne se donne pas le temps d'hésiter, bah généralement, ça finit par marcher d'une façon ou d'une autre.
Exact. Je suis tout à fait d'accord.
Alors, une fois en Chine, comment ça s'est passé ?
Alors, une fois en Chine, je suis partie la première fois pendant 10 jours, toute seule, et après je suis revenue, on est partis ensemble pendant un mois, on s'est installé pendant un mois pour voir est-ce que nous allons apprécier la vie là-bas ou pas. Mm-hmm. Et nous avons cherché un travail, nous avons signé les contrats et tout ça. On est retourné au Maroc et on est reparti pour y rester plus d'une année. Je suis restée 1 an et demi. Et mon grand garçon qui a aujourd'hui 18 ans, il est né à Jinzhou, en Chine.
Okay.
Et dans cette ville-là, j'étais la première étrangère à accoucher à Jinzhou. Donc je faisais là une des journaux, je me sentais comme une star.
Ah bah voilà, le petit côté américain d'étudiante, ça a fini par donner ses fruits au final, à la une de la presse, bah voilà. Excellent, excellent. Donc c'était une aventure plutôt intéressante et enrichissante pour vous.
Oui, c'était enrichissante. Mmh. Pourquoi je dis tout ça? Parce que tout ça, ça veut dire les gens qui vont visiter mes expositions, ils vont voir qu'il y a un côté east, un côté chinois, un côté de tradition ancestrale, qui n'est pas très différent de ce qu'on vit ici au Maroc. Mmh. Et sans le vouloir, des fois, même inconsciemment, je me retrouve à utiliser des couleurs qui vont nous rappeler l'Est, qui vont nous rappeler...
Donc, est-ce qu'on peut dire, Shams, que l'art, ça a toujours fait partie de votre vie, même si vous aviez eu une vocation pour l'enseignement? Mais est-ce que, petite, par exemple, quand vous étiez enfant, parce que généralement, c'est là que beaucoup de choses se passent pendant notre enfance, et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, mais une fois qu'on devient adulte, on commence un petit peu à rassembler, en quelque sorte, les pièces du puzzle. Est-ce que l'art, ça a toujours été quelque chose que vous aviez en vous, et c'était juste question de timing?
Oui, c'était pas juste question de timing. Au fait, les arts en général, ça a toujours fait partie de ma vie. Mmh. Ça veut dire même chez moi, mes parents à l'époque et même aujourd'hui, pour eux, des tableaux à la maison, c'est important. C'est pas forcément le Picasso, mais avoir des tableaux qui parlent, en discuter le soir, avoir des bibelots sous forme de sculptures. On avait des livres à la maison tout le temps. Ma mère, elle était enseignante à l'école normale supérieure. Aujourd'hui, elle est à la retraite.
D'accord.
Et donc, elle et mon père, ils avaient déjà cette fibre et ils sentaient que c'était important de préparer leur enfant à cette ouverture d'esprit, à avoir accès à la culture au sens général. Donc, je me sens aujourd'hui que j'étais privilégiée, parce que c'était pas évident pour beaucoup de monde à l'époque.
C'est vrai. Et maintenant aussi, surtout par rapport à l'entourage, des fois des vocations, des passions pour l'univers artistique et des fois aussi le fait de vouloir en faire un métier, ça peut, il y a des réticences au niveau de l'entourage, de la famille, parce qu'ils ont peur justement de la stabilité financière et ça se comprend. Pour eux, être artiste à plein temps, ça ne va pas rapporter cette stabilité financière qui va nous permettre de subvenir à nos besoins. Donc, ils préfèrent toujours que leur enfant, peu importe son âge d'ailleurs, parce qu'on est toujours des enfants aux yeux de nos parents, et une certaine stabilité financière, et en parallèle, pourquoi pas, faire de l'art.
Oui, et comme tu viens de le dire, ils n'ont pas tout à fait tort. Mm. Parce que, alors moi, dernièrement, j'ai écrit un livre sur les parcours de vie et professionnels d'un groupe d'artistes ici à Casablanca. Mm-hmm. Donc l'idée du livre, déjà, il m'est venue d'une question que je me posais moi-même. D'accord. Moi, je vois que j'ai un travail, j'ai un salaire à la fin du mois, et ce n'est pas assez pour financer l'art. La peinture, elle coûte cher, les toiles coûtent cher, enfin tout le matériel coûte cher. Pour exposer, il faut avoir de l'argent, il faut avoir un atelier, donc il faut louer, il faut... Et j'étais en train de me dire, les gens qui ne font que ça, comment ils font? Peut-être que moi, je ne sais pas faire. Mmh. Donc j'ai commencé à poser des questions autour de moi. Et j'ai été, choquée par ce qui se passe réellement dans la vie de tous les jours, de tous les artistes peintres. Mmh. Donc, je sais pas. Moi, je pense que le métier d'artiste, c'est très difficile. Et je pense qu'il existe très peu, très très peu d'artistes peintres qui peuvent vivre de leur art.
Pleinement, et même c'est vrai.
Ouais. Et même ce très peu qui vit de son art, ils sont obligés de donner des cours pour des enfants ou dans des écoles à côté, de faire de l'encadrement, de faire autre chose. Parce qu'il est quasiment impossible de vivre décemment en vendant des tableaux ou en ne faisant que de l'art. La plupart des gens, ils voient ça comme un luxe. Mm.
C'est vrai que malheureusement, des fois, on a cette impression que l'art n'est pas fait pour tout le monde, alors qu'au final, ben, l'art est fait pour tout le monde. Et c'est aussi un message peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui, des fois, en passant devant une galerie, hésitent à rentrer parce qu'ils se disent « c'est pas fait pour moi, peut-être que j'ai pas le droit, etc. » Non, il faut juste oser rentrer, demander. Voilà, prenez le petit catalogue, baladez-vous. Il n'y a pas de souci, c'est pas fait que pour certaines personnes. L'art, c'est fait pour tout le monde. Et si vous avez accès à ça dans votre ville et vous avez des petits ateliers par-ci, par-là, dans des ruelles, on en voit d'ailleurs, et l'accès est gratuit. Vous avez le droit d'y rentrer sans payer. Donc, vous pouvez y aller tranquillement et c'est fait pour tout le monde. Voilà.
Exactement.
Message.
Voilà.
Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, je les vois des fois en passant, qui regardent juste l'extérieur, ils ont un petit peu, ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur, ils se disent non, peut-être que c'est bon. On va me dire non, ne rentre pas, c'est privé ou quelque chose comme ça, alors que non. Bien sûr, il y a des endroits où c'est privé, etc. Mais une grande partie des expositions qu'on peut trouver, on peut y rentrer tranquillement. Donc juste allez-y. Les musées, etc. Voilà. Juste allez-y.
Oui.
Et vous ferez votre propre idée, je pense.
Alors, moi, je voudrais te remercier d'abord pour ça, parce que il n'y a pas que l'art. Les gens, ils voient élitiste tout ce qui touche à la culture. Il y a beaucoup de monde qui ne va pas au théâtre parce qu'ils pensent que le théâtre, c'est cher. Ils pensent que c'est cher. Oui, il y a des activités qui sont chères, mais il y en a d'autres qui sont gratuites.
Oui.
Il y a beaucoup, par exemple, de pièces théâtrales qui se passent ici à Cazaïl, au Maroc, qui sont gratuites. Il suffit d'y aller. Il y a des projections de films qui ne coûtent que 10 dirhams dans plein de centres culturels.
Effectivement.
Il y a beaucoup d'ateliers qui sont ouverts au public gracieusement. On peut faire de la musique sans payer, on peut faire du théâtre sans payer. On peut aussi inscrire nos enfants dans plein d'activités sans avoir à débourser des sommes.
Effectivement. Je pense que c'est juste, il faut juste le rappeler aux gens de temps en temps, comme ça, voilà, ça casse un petit peu ce petit mur de verre qui sépare certaines personnes de l'univers artistique. Il suffit juste, voilà, de leur dire de temps en temps, comme ça, le message, je pense, le message passe plus facilement. Shams, si je vous demandais cette fois, alors on a parlé de vos premiers pas dans l'univers professionnel, vos premiers pas en tant qu'artiste, votre première exposition, est-ce que vous vous en rappelez? Comment ça s'est passé? C'était quand?
Oui. Alors déjà, au préscolaire, je ne me rappelle pas beaucoup, mais j'ai des photos et j'ai aussi un prix. J'ai gagné un prix prestigieux avant l'âge de 7 ans. Mes parents, à l'époque, ils vivaient à Rabat. Mm-hmm. J'ai dessiné quelque chose que j'ai intitulé « Ce que j'aime » et ça a remporté un prix.
Excellent.
Oui. Mais après cette petite expérience, je m'intéressais à la peinture et au dessin, mais pas plus que le reste des enfants qui adorent jouer avec les couleurs. Donc je faisais des petits dessins, je faisais un peu de peinture chez moi, mais je n'avais pas les outils parce que je n'ai jamais suivi une formation en art plastique, une formation académique en art plastique. Alors ce n'est que dernièrement, en 2015, donc on va dire il y a 10 ans,
d'accord,
que j'ai commencé à prendre des cours dans des ateliers, mais aussi en suivant des formations en ligne, et surtout ma formation en sciences humaines parce que j'avais fait beaucoup d'histoire de l'art, j'ai étudié la philosophie, les religions comparées, tout ça, ça aide. Je n'avais pas la technique, comment tenir un pinceau, comment mélanger les couleurs, comment avoir une toile qui soit clean, enfin toutes les techniques, comment travailler en relief, tout ça, donc j'ai dû l'apprendre dans des ateliers de grands artistes de renommée marocains. Et je les remercie. Je les remercie vraiment du fond du cœur parce que j'ai beaucoup appris et je continue à apprendre. Chaque jour, j'apprends des choses nouvelles. Bien sûr, à travers l'expérimentation, à travers l'échange avec les autres, à travers beaucoup de choses. Et en plus de l'apprentissage, c'était une thérapie pour moi. Donc, tout le stress du quotidien, tout ce qui n'allait pas très bien dans ma vie, je pouvais l'exprimer et l'exprimer d'une manière différente de celle de l'écriture. C'est le faire ressortir sur une toile. Donc, j'avais des parties intimes de moi, au fond de moi, qui étaient sur la toile, mais qui n'étaient pas forcément accessibles à tout le monde. Donc, je pouvais m'amuser à travailler comme je voulais. Et puis, à la suite, je pouvais donner des messages qui restaient subtils ou généraux sans avoir à parler de ma vie intime. Ce que je n'arrivais pas à faire en écrivant, par exemple.
Ouais. Il y avait plus de facilité en, en faisant...
Tout en parlant, tout en rendant les messages universels. L'écriture, j'ai passé un très grand moment de ma vie à faire ce qu'on appelle de l'écriture transparente. Il y a des choses réelles, je n'imaginais pas. Je prenais un stylo et j'essayais de faire ressortir tout ce que j'avais en moi. Et c'était aussi une thérapie.
Bien sûr.
Et à la fin, c'était beau, mais je n'arrivais pas à partager avec les autres. Parce que je n'arrivais pas à faire cette distinction entre la fiction ou ce qu'on pourrait écrire d'une manière belle, d'une manière intéressante. Et je n'arrivais pas à rendre ce que je vivais moi, à le transformer et à le transcrire en message universel, c'est-à-dire une expérience que tout le monde peut partager. Et donc, je l'ai gardé pour moi. Je me disais, si aujourd'hui je suis triste, ben je suis triste, ça ne regarde pas les autres, et de toutes les manières, ça ne doit même pas les intéresser. Parce que chacun, il a ses propres émotions, il a sa propre vie, donc il n'a pas à aller ajouter à ses problèmes ou à ses joies celle des autres. Donc, je n'avais pas encore ces outils. Je ne sais pas, c'est peut-être la jeunesse, c'est peut-être l'âge, le manque d'expérience. Maintenant, j'arrive légèrement à écrire des choses différentes, surtout quand j'écris en poème. Mais la peinture, elle m'offrait cette possibilité.
Ouais.
Donc, tout ce que je peignais, je voulais le partager, je voulais le montrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à exposer. Voilà,
excellent.
C'est pour dire aux gens, voilà, regardez ce que je fais. Donc, c'est comme si on montrait plus la technicité, plus le côté technique que le côté message. Tout ça a changé par la suite. Et voilà, donc...
Parce qu'avec le temps, on change aussi, on apprend, notre perspective des choses évolue également.
On comprend des choses qu'on ne comprenait pas au début.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà.
Et ça se ressent, à travers, ce qu'on fait. Shams, cette fois, est-ce que vous arrivez à équilibrer entre vie d'artiste, vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que vous êtes arrivé à trouver un équilibre entre tout ça, ou est-ce que ça se fait naturellement et il n'y a même pas besoin de parler d'équilibre?
Ça se fait naturellement parce que c'est des choix à faire. Moi, à un certain moment de ma vie, j'ai dû choisir entre une carrière qui payait bien et faire de l'art. Évidemment, j'ai choisi l'art tout en gardant un emploi qui me permettait d'avoir un salaire à la fin du mois, de pouvoir subvenir à mes besoins et aussi aux besoins de l'artiste que je suis. Mais il y a un point important, ce sont les familles. La famille, qu'est-ce que tu voudrais que je te dise, mon chéri? Quand on est marié à un artiste, la vie, elle est forcément pénible. Parce que la plupart du temps, je suis dans un atelier. Des fois, je n'ai pas envie qu'on me dérange. Par moments, je peux y rester jusqu'à 2h, 3h du matin. Des fois, j'ai une idée, je pourrais me réveiller au milieu de la nuit pour aller la mettre au moins sur papier pour pouvoir y travailler le lendemain. Les expositions, elles demandent beaucoup de temps. Elles demandent beaucoup d'investissement. Il faut voyager beaucoup, des fois. Et donc, j'ai un mari qui comprend tout ça. Et puis, on essaie d'équilibrer comment. Si on essaye, par exemple, quand j'ai une exposition à l'étranger, par exemple, ben, on va essayer de programmer des vacances avec notre enfant pour pouvoir profiter et de l'exposition et aussi... Voilà,
joindre l'utile à l'agréable.
Joindre l'utile à l'agréable. Donc, j'essaie de jongler un peu avec les aléas de l'âge.
Excellent. Ben finalement, quand on aime, encore une fois, ça nous ramène au même point. Quand on aime quelque chose et qu'on le fait avec amour et passion, on trouve toujours des solutions. Même si des fois, c'est difficile, on arrive toujours à surmonter et à trouver une solution à telle ou telle situation.
Alors, je vais vous dire, c'est difficile pour l'entourage, pas pour l'artiste. Pour moi, ce n'est pas du tout difficile. C'est-à-dire, moi, je suis dans mon élément,
je suis bien.
Il n'y a pas de problème. Je suis pas nuit, je peux peindre jour et nuit, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, c'est Dieu.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Finalement, quand on a un entourage bienveillant et compréhensif, ça facilite énormément. Ça aide énormément. Shams, si je vous demandais, c'est quoi votre plus beau souvenir artistique, professionnel? Ça serait lequel, comme ça, de mémoire? Le premier souvenir plutôt qui vous traverse l'esprit?
Alors, plusieurs souvenirs, je vais vous dire. La première, c'était une fois, alors en même temps, je suis membre fondateur d'une association pour la diversité artistique et culturelle Plumard. Et puis une fois, ça ne marchait pas, je suis partie en atelier et je discutais avec un autre peintre Je lui racontais les problèmes de l'associatif, que c'était mieux quand on n'avait pas d'association et tout. Et à un certain moment, il me regarde et il me dit « Mais pourquoi tu me parles de tout ça ? Vas-y, prends une toile et tu peux aller discuter avec cette toile. » Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et différent de tout ce que j'avais l'habitude de faire. Et à la fin, ça a donné une très belle toile. Je l'ai appelée Rage parce que j'étais vraiment enragée ce jour-là. Je me rappelle, je griffais la toile, je lui donnais des coups de pied et puis la peinture, elle faisait des mouvements dans l'air. Ça a donné un résultat magnifique. Cette toile, elle est aujourd'hui exposée à la bibliothèque de l'université à La Hawaii. Comme je suis lauréate, donc je l'ai offert à l'université. Et la deuxième très bonne expérience, et j'en garde des souvenirs magnifiques, c'est une exposition qui était organisée par le Conseil supérieur de l'enseignement. Je travaillais au conseil et donc mes collègues ne savaient pas tous que j'étais artiste peintre. Et cette exposition, donc, elle a fait découvrir, elle a fait dévoiler l'autre côté de Shams que la plupart des gens, y compris mes supérieurs et tout ça, ne connaissaient pas. Et j'étais super heureuse parce que tout le monde m'encourageait et j'étais sur un petit nuage. Au début, j'étais un peu sceptique. Voilà, un peu de stress, un peu de doute. Est-ce que ça va plaire ou pas? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon quotidien? Surtout que c'est le milieu où je gagne mon pain. Mais par la suite, tout le monde a trouvé que c'était tout ce que je faisais était magnifique. Bien sûr, ils m'ont encouragé, c'était pour m'encourager.
Excellent.
Et j'en garde un super bon souvenir.
Et cette fois, le mot de la fin, Shams, si vous aviez un conseil à partager avec peut-être les plus jeunes qui nous écoutent actuellement et qui rêvent de faire carrière dans l'univers artistique d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller à ces jeunes, question de les motiver, de les éclairer un petit peu aussi?
Alors, si j'ai un conseil à faire, c'est la culture. La culture, pour moi, c'est quelque chose de très important. Important d'avoir des notes, c'est important d'avoir des 18 et des 20 dans toutes les matières. C'est aussi important de lire, d'écrire, d'écouter de la musique, d'aller au théâtre, parce que c'est ça ce qui va faire la différence par la suite. Parce que cette culture, ça va donner une ouverture d'esprit, ça va donner une manière de voir qui est différente, et quel que soit le travail qu'ils vont faire par la suite, qu'ils soient professionnels de l'art ou même s'ils travaillent dans un autre domaine, cette partie de... Ce regard artistique et cette partie créative, elle les aidera beaucoup dans leur parcours professionnel parce qu'ils vont voir les choses, ils vont gérer les problèmes, ils vont gérer tout ce qui se passe dans leur milieu professionnel d'une manière équilibrée. Et la différence, elle se voit de suite. Quand on a une fibre artistique et si on se compare avec quelqu'un d'autre qui n'a pas eu la chance d'être ouvert aux arts, la différence, elle se voit rapidement.
Merci beaucoup, Shams Sahbani, d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire et votre parcours. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et d'en apprendre plus sur vous et votre carrière. Merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi et j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes et à vous.
Bien évidemment. Je n'en ai aucun doute.
Je suis très contente d'être là et je voudrais vous remercier de mon côté parce que les médias et Medi 1, elle fait beaucoup pour les artistes et c'est inestimable parce que les artistes, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de savoir qu'il y a un petit groupe d'être illuminé, je dirais. Je parle pas pour moi, je parle en général, évidemment. Ouais. Et c'est bien de pouvoir partager notre histoire et notre parcours avec le reste des Marocains.
C'est un plaisir. C'est un plaisir, Shams. Très bonne journée.
Également. Au revoir.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.